me dit le secret, passe dans la grande rue, devant les fameux scarabées de bijouterie, à 100 mètres de la maison du Las, celle de ta famille, et regarde dans les vitrines. Peut-être il verra-t-il trembler au fond de la mémoire une planche de photos épinglées, papillons spectraux, images de tous les gens qui osaient entrer chez des commerçants Youd dans les années noires. Peut-être pas. C'est ici, sous les fenêtres de la maison Violas, qu'on lui regardait les rues et les places se remplir à craquer d'une foule ivre de haine, et les bannières de Reich qui lui donnaient l'éclat d'un opéra terrible montaient jusqu'à son balcon. Le ciel au-dessus de Rolandstrasse était rouge du bûcher de la synagogue.
On ne sait pas, on croit savoir. On ne sait pas qu'on ne sait pas. L'histoire, en se faisant la lumière, fait aussi aveuglement. J'étais aveugle et je ne le savais pas. Des impressentiments me murmuraient. Va à Osnabrück comme à Jérusalem et demande au mur de la ville et au pavé des trottoirs ce qui était caché.
Tout le temps où Ève, ma mère, était en vie, j'ai souhaité aller à Osnabrück, la ville de la famille maternelle de ma mère, Jonas. Berceau et tombe. Ville de la prospérité et de l'extinction. C'est pas intéressant, dit ma mère. Pas la peine. Allons-y, dis-je. On a été, dit ma mère.
On a été. Maintenant, on n'est plus.
Alors, maintenant qu'elles ne sont plus, Ève, Eri, Oni, maintenant qu'il n'y a plus personne, et que la mémoire cherche où, en qui se réfugier, maintenant qu'il est trop tard, à toi d'aller, nous dit le dessin, gardien du mystère généalogique.
La taille d'une vie est un instrument du destin. Osnabrück ne faut pas y condamner les maigres chances de survie que le vaste Berlin compliqué accorde. Ici, la ville tout entière est une simple souricière. Le petit peuple qui sourit n'a aucune chance. Nul ne s'échappe. Ni la famille Osvald, ni la famille Van Pels, ni la famille Remarque, ni la famille Onas, ni...
Je demande à Omi pourquoi elle n'a pas filé en 1930 avec ses filles. Et en 1933, et en 1935, naturellement, elle ne répond pas. Quand Omi demande à son frère Andreas, qu'attends-tu dans ce salon? Que fais-tu en 1941 et jusqu'au train de 1942? Une voix remue dans les pavés, c'est Andreas qui murmure, j'attends la mort à la gare de Osnabrück, ne touchez pas à mes cendres.
Dans les rues, les voix fantômes timides détaillées dans le silence soufflent. Descend chez les cendres derrière le rideau.
Je suis allée derrière le rideau, réclamer mon héritage de tragédie au secret. Et on me l'a donné. On, les archives de la terreur, gardées, ordonnées par la mairie et ses bibliothèques. J'ai suivi les traces de Job, piétiné et écorché vif en allemand. Kyo.
Voilà, c'est un aperçu du très beau livre qui s'appelle Gare de Osnabrück à Jérusalem, et les Sixous, que je remercie d'avoir accepté une fois de plus notre invitation à la librairie Kléber à Strasbourg. Et je suis très heureuse aussi de recevoir, pour la même occasion, Cécile Bajrault, qui est écrivaine et traductrice, et qui a signé avec Anne Sixous un livre d'entretien qui s'appelle Une autobiographie allemande chez Bourgois, où elle interroge Anne Sixous sur justement toute cette part allemande en elle, et justement Cécile qui vit à la fois à Paris et à Berlin a aussi beaucoup à voir avec l'Allemagne, une nouvelle occasion d'en parler. Alors, j'ai lu Gare d'Osnabrück à Jérusalem un peu comme une état d'hallucination, une sensation d'hallucination. Et je voulais te demander de commencer. J'ai vécu le livre comme ça. Est-ce que toi, tu as vécu ce voyage comme ça, écrit ce livre comme ça? Est-ce qu'il y a d'un appel dans tout ça?
C'est un après-coup. Ce livre est arrivé exactement est arrivé enfin sur moi, cette Osnabrück, à quoi j'avais d'une certaine manière renoncé. Osnabrück, c'est la ville de ma famille maternelle. Et toute ma vie, avec ma famille maternelle, avec ma grand-mère, ma mère, ma tante, etc., j'ai été élevée dans le rêve d'Osnabrück. Et alors, historiquement, il y a une vingtaine d'années, la mairie d'Osnabrück s'est mobilisée et a commencé à. D'Osnabrück, une ville dont on en parlera certainement, une ville dans laquelle il n'y avait plus un seul juif. La communauté juive avait été dispersée ou déportée. Et cette mairie, comme beaucoup de mairies allemandes, a fait un travail de retour, de mémoire très complexe. Et soudain, ils se sont dit, il faut qu'on lance un appel mondial pour voir s'il existe encore des juifs qui étaient natifs de ce pays. Il y en avait une dizaine sur la terre. Voilà. Et la mairie les a invités à venir. J'ai su tardivement et simplement justement en allant un peu que c'était en deux voyages. Parce qu'ils ont pensé qu'il fallait ne recevoir que 400 personnes à la fois pour pouvoir bien recevoir, ce qui était très juste. Et c'est comme ça que ma mère a reçu un jour une invitation d'un ami de Saint-Denis qui était clairement énoncé. C'était sur le programme. Alors c'était un événement compliqué dont j'ai rendu compte dans un livre qui était il y a 20 ans, qui s'appelle Benjamin Montaigne. Et je voyais mes deux sœurs, comme ça, qui étaient pour moi comme deux merveilleuses fées, marionnettes. Se tâter en se disant est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Mais avant tout, ils m'ont dit. Bon, elles ont fini par y aller. Alors je me dis, et maintenant que mes deux vieilles sont allées à Osnabrück, nous allons y aller. Voilà, maintenant nous allons retrouver cette ville qui était devenue une ville mythologique. Et dans une sorte de. À la fois de confiance et je dirais de borne analytique, chaque fois que je proposais aux miennes un voyage, que je baignais en disant on ira dans le meilleur hôtel, on prendra. Alors les deux me disaient qu'on était en Angleterre, où justement la fuite du nazisme avait conduite, l'autre était avec moi, ma mère, et elle me disait oui, on va y aller. Bon. Puis je mettais tout en place, et 15 jours avant le départ, alors, on appelle de Manchester, et ma mère arrivait avec une petite mine, disait, je crois que Erin n'a pas envie d'aller au sein. Elle dit, et toi? Ah, mais moi, si Erin n'a pas, alors... On a été. C'est pas grave. Et ça, ça s'est renouvelé, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à ce que ça devienne une sorte de Jérusalem. C'était l'an prochain à Osnabrück, comme l'an prochain à Jérusalem. Et... Bon, alors... Je ne m'arrivais pas à lever la résistance. Je me disais à moi-même, vas-y, mais je ne pouvais pas y aller sans elle. J'avais l'impression que si j'y allais sans elle, je les enterrais. Donc je n'y suis pas allée. Voilà. Et j'en disparais. Et alors à ce moment-là, à nouveau, la grande pièce de théâtre a recommencé à se jouer et je me suis dit, maintenant je fais quoi? Alors je me suis dit, maintenant il faut que j'y aille, parce qu'il faut que je retrouve les traces de toutes ces personnes. Et voilà. Mais là intervient quelque chose, parce que non seulement ma mère et ma tante faisaient comme ça une sorte d'incroyable comédie tragique, mais moi j'avais de mon côté des problèmes avec la ville de Saint-Luc, très divers, qui venaient de diverses institutions. Et voilà. Et puis, il y a eu une sorte de miracle, parce que finalement, ça arrive, c'est-à-dire que les miracles sexuels, on ne le prend pas du tout. Et Cécile, avec qui j'avais une amitié, a petit à petit amené un Osnabrück comme ça autour de moi, et je ne sais plus quel jour ou comment, mais certainement ça s'est passé par la suivante, elle m'a dit, et pourquoi est-ce qu'on a envoyé, pourquoi vous n'avez pas Osnabrück? J'ai essayé d'expliquer que le voyage à Osnabrück était impossible, c'était la définition d'impossibilité. Et elle y avait déjà été, elle avait des attaches à Osnabrück, tu peux en parler.
Oui, non, c'est juste pour dire que moi j'ai été effectivement une fois invitée à Osnabrück, et évidemment, en étant à Osnabrück, je pensais à l'ENEM. Enfin, c'était, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, ça me paraissait incroyable que moi j'y sois et qu'elle n'y soit pas.
Et qu'on puisse en même temps Osnabrück.
Oui,
dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, c'est en général, c'est en
classe. Osnabrück, c'est en film. Voilà, si on a cette espèce de bloc allemand comme ça, alors c'est en haut à gauche sur la côte. C'est curieux parce que c'est une ville, c'est donc la Basse-Saxe, mais en fait c'est haut. Voilà. Et c'est dans le Hanovre, le Land du Hanovre, et c'est un Land qui s'est toujours piqué d'être le chic de l'Allemagne, un pays distingué où on parlait le meilleur allemand. Ça, c'est ce qu'on raconte la région. Hein.
C'est la Touraine.
Voilà, c'est ça. Et alors, Osnabrück était une ville dont les dimensions ont changé selon le moment où je me tournais vers elle. Maintenant, aujourd'hui, mais je ne connaissais pas Osnabrück aujourd'hui, elle a 165 000 habitants, ce qui est une ville de dimension normale. Quand ma grand-mère y est née, elle n'avait que 18 000 habitants. Et donc, elle a. C'était en 1882. Elle a pris 10 000 habitants par an. C'est une ville qui est en fleurie tout le temps. Mais quand ma mère a quitté Osnabrück définitivement, il y avait 90 000 habitants. 10 ans après, c'est devenu ce qu'on appelle en Allemagne grosse Stadt. À partir de 100 000, on a le droit de s'appeler grosse Stadt. Mais quand elle a été grosse Stadt, elle était nazie à 95%. C'est une ville qui est devenue nazie d'un seul coup. Et qui maintenant s'est retournée dans le contraire exactement. Maintenant, elle s'appelle Friedenstadt, la ville de la paix, et c'est ça. Et ils exercent ça. Cette ville s'exerce à la paix, à l'accueil, reçoit beaucoup de migrants, se multiplie dans les efforts d'hospitalité. Donc c'est une histoire très longue et très compliquée, et par ailleurs, parce que pour moi c'est très important quand j'étais petite, à Osnabrück on a signé en même temps qu'à Münster le traité de Westphalie, c'est-à-dire de la fondation de l'Europe. Et donc déjà on était dans cette direction ambivalente de guerre et de paix qui sont revenus. Et à part ça, c'est une ville qui n'est pas industrielle, il y a de l'industrie autour, très peu, et qui est préservée en particulier écologiquement. Et c'est une des plus anciennes. Même ma copine, la mère de Osnabrück, me dit la mairesse, je ne sais pas comment la mère de Osnabrück, la dame de Marie-Stérine de Osnabrück, dit que c'est la plus ancienne ville d'Allemagne. Je doute un peu, mais elle a été fondée par Charlemagne. Voilà. Alors, physiquement, géographiquement, c'est une ville très intéressante, très ancienne.
Alors, simplement, pardon, c'est pour me dire, enfin, quand. Osnabrück, on m'a dit, donc effectivement, j'avais quelques contacts à l'université, mais on pensait, enfin, et même aussi tout, il y avait plein de liens à Osnabrück.
On disait,
oui. Ouais. Et j'ai dit aussi, enfin, c'est pour ça que j'ai demandé, c'est
que j'ai tout le monde. Ah oui, c'est vrai, ça a commencé comme ça, ça a commencé par une aventure à l'envers. C'est que certains malveillants. Que l'histoire les emporte. répondait le oui que je ne pouvais pas venir à Osnabrück. Et donc avait mis en place effectivement tout ce qu'il faisait que je ne pouvais pas venir à Osnabrück.
Finalement, vous étiez venu ensemble.
Non, Cécile m'a précédé pour très longtemps. Et au moment où on s'est expliqué un peu par hasard, par amitié, parce qu'on échangeait beaucoup sur l'Allemagne, et que je lui ai dit, à lui dire certaines choses, mais à ce moment-là, je n'étais pas partante du tout, ma mère était là. Donc non, Osnabrück était là dans la maison. Et puis, elle a commencé à me tenter avec Osnabrück, et en fait, il faut dire que je vois Osnabrück à Cécile, c'est un tour étrange de l'histoire, hein, dans une sorte de chronique inouïe. Voilà. Et c'est Cécile qui a tout facilité, qui a tout mis en place, qui a même. Et donc, j'ai fini par aller l'an dernier à Osnabrück. Ça a été pour moi un événement majeur, un des plus grands événements de mon existence, en fait. Mais pas parce que. Enfin, remplissait ce que, la mission que j'avais. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est ça qui est venu vers moi. Il m'a dit, t'as vu ça? Regarde. Et Ostatut a commencé à me montrer énormément de traces qui m'ont renversé, auxquelles je ne m'attendais pas du tout, qui m'ont surprise, qui m'ont bouleversé et qui m'étaient en place devant moi comme dans une sorte de réalité de surréelle ou extratemporelle, l'histoire des Juifs et des nazis à Ostatut. Ça, j'étais là et je voyais. Et donc, est arrivé vers moi ce livre, parce qu'il était tout écrit par cet événement. Mais à cela, je dois ajouter que, comme je me disais, bon, maintenant, il faut que j'ai mon colloque avec les démons. Voilà. Alors, allons d'abord là où ils sont nés et sont morts, le temps est indépendant, donc à Ostatut. Et dans une sorte de mouvement, comme ça, complémentaire, mais qui n'est pas calculé, au même moment, on m'avait invité à Jérusalem, pour que je ne l'ai pas, Jérusalem, ne l'ai pas en fait, voilà, ni la raison. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu vas aller à Jérusalem. Bon. Alors, mes amis de Jérusalem, qui ont invité en permanence, me disaient, mais comment ça se fait que tu viens? Mais pourquoi tu viens à Jérusalem? Alors, moi, je trouvais bizarre cette question, hein. Je me disais, pourquoi on me demande comment je viens? Alors, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit, vous savez pourquoi je viens à Jérusalem? Parce que je ne veux pas y aller. Voilà. Et c'est tellement fort chez moi que, puisque je ne veux pas y aller, il faut que j'y aille. Il faut y aller.
C'est un peu comme le livre que tu ne veux pas écrire.
Je ne veux pas écrire, je ne veux pas écrire. Non, mais là, c'était autre chose, parce que c'était ne pas vouloir aller à Jérusalem, c'était obéir à mon plaisir. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me tourmenter, de me jérusalemer, de me jérusalemiser. Je n'ai pas envie de porter sur moi tout ce qui se passe là-bas, et avec moi je suis dans un désaccord qui est initial, c'est-à-dire que voilà. Et donc, je me suis dit, mais alors du coup, évidemment, j'ai rien à dire. Moi, je pense ce que je pense, j'ai les expériences que j'ai, etc., mais je ne peux pas ouvrir la bouche et dire quelque chose publiquement. Chez moi, bien sûr, enfin, dans mon entourage. Mais publiquement, je ne peux rien dire parce que je n'ai pas été comme ça dans le lieu où je ne veux pas. Donc je me suis dit, en toute honnêteté, il faut que j'aille à Jérusalem. Et j'ai fait Ostatut à Jérusalem. Je suis passée d'Ostatut à Jérusalem. Sans me rendre compte du côté volcanique de la chose et de l'énormité de ce qui allait se produire et qui était. Et qui, bien sûr, venait de très loin. L'histoire de Stendhal, pour moi, elle commençait justement avec le traité d'Astralis, et j'avais toujours suivi tout ça très, très précisément. C'était toute l'histoire de l'Europe. Et Israël, c'était toute une autre histoire avec laquelle je vais y appartenir, toujours, et qui est l'histoire des judéités. Et donc, on ne peut pas aller simplement, on y va avec des siècles, des millénaires, quoi. C'est extraordinairement compliqué et difficile.
Pour en venir à Ostatut, ce qui est frappant, et tu le dis toi-même, tu as beaucoup écrit sur l'Algérie. Et là, tout à coup, on a toujours su que elle, ta mère était allemande et que l'Allemagne était une part très très importante, notamment pour la littérature, c'est un point de tout à l'heure. Mais là, tout à coup, c'est l'Allemagne qui surgit. Et tu dis d'ailleurs, et après qu'en Algérie, l'Allemagne apparaît. J'ai l'impression que c'est comme si tu revenais à quelque chose d'ancien qui ressurgit en toi. Y compris la langue, je veux dire, il y a un certain nombre de mots en allemand, de choses qui te reviennent en allemand. Tout à coup, le pays, la langue, tu reviens, c'est peut-être aussi quelque chose que tu as sauvegardé les dernières années avec ta mère.
Alors ça, j'en parle justement dans une autobiographie allemande avec Cécile, parce que maintenant, chronologiquement, une autobiographie allemande précède largement Gerd Osnabrück, et encore une fois, c'est Cécile qui a frayé le chemin, parce que cette remarque que tu fais, c'était ce qu'elle se disait à elle-même. Et peut-être je te laisse le dire, parce que c'est comme ça que tu as commencé à m'interroger.
Moi, ce que je trouvais, c'est qu'il y avait une présence justement de l'Allemagne dans les textes d'Hélène, et notamment, évidemment, à commencer par Osnabrück, et même avant, enfin, je suis allusion au titre Angst, qui est, c'est quand même, c'est 77, je crois, donc une époque où l'allemand, c'est encore le cas aujourd'hui, je dis ça à Strasbourg, où les choses sont différentes, mais où l'allemand ne résonnait pas tellement en France, c'est le moins qu'on puisse dire, ou alors de façon totalement négative. Et donc pour rappeler, donner un titre, un livre avec un mot allemand, mais en plus aussi fort, enfin, c'était une forme de transgression. Et donc depuis ça jusqu'à Osnabrück, Benjamin Montaigne, enfin, il y a beaucoup de choses, et dans d'autres, il y a même Osnabrück. Le livre qui s'appelle Simplement Osnabrück, et qui retrace, enfin, entre autres, l'histoire de l'Ukraine, aussi un peu de l'histoire de la vie d'Osnabrück et du traité de Westphalie. Et donc, mon sentiment, c'était pas tellement qu'Hélène n'avait pas abordé dans ses livres cette question, si on peut appeler ça une question, mais que c'était pas pris en compte dans la critique, dans le commentaire, et que ce qui était beaucoup plus pris en compte en France, c'était la part actuelle de la chaîne. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai proposé qu'on fasse cet entretien qui a commencé vraiment comme un entretien et qui est paru d'ailleurs, comme les choses ont une logique, je pense qu'il fallait que tu aies le cerveau, et moi je suis de l'instrument du hasard, simplement, c'est que c'est paru, le début du livre est paru en allemand, d'abord, de paraître en français, et puis ensuite dans une revue qui s'appelle Zinnungsform, et ensuite on a eu le sentiment qu'on pouvait continuer, qu'il y avait d'autres choses à dire, et voilà comment le livre.
C'est un échange par courrier, hein, puis c'est poursuivi pendant quelques mois. Vous n'étiez pas donné du conseil particulier du temps.
Mais d'avoir le temps, je souhaite.
D'avoir la seule chose, c'est que quand Cécile m'a proposé ça, ça me plaisait tout à fait. Donc, de parler de l'Allemagne, je veux dire que moi, je n'ai jamais quitté l'Allemagne. Bon, j'ai toujours vécu avec ma part allemande, et je me dis, tu sais, comme David a dit, dans le moulin l'une de l'autre, il dit. Je n'ai qu'une langue, et ce n'est pas la mienne. C'est un paradoxe. Je n'ai qu'une langue, et ce n'est pas la mienne. Il parlait plusieurs langues. Mais avoir, il n'en avait plus, mais ce n'était pas la sienne. Mais moi, je pouvais dire ça de l'Allemagne et d'Algérie. J'ai deux espèces de pays dont je descends, mais ce ne sont pas les miens. Je ne peux même pas dire que je les ai perdus. J'ai toujours dit que je n'ai jamais perdu l'Algérie parce que je n'ai jamais eu. Voilà. Et je n'ai jamais perdu l'Allemagne parce que je n'ai jamais eu. Mais en même temps, voilà. En même temps, ce sont des mondes auxquels je sens que de nombreux liens me raccordent, qui m'apportent énormément. Et avec une dominante intérieure qui était allemande, pour des raisons là aussi accidentelles, c'est que mon père est mort très tôt et j'ai été élevée du côté allemand. Et l'autre langue qu'on parlait dans ma maison, par le français, c'était d'abord l'allemand, même si à côté on parlait aussi de l'espagnol, etc. Donc, tout ça fait que quand Cécile m'a appelée comme ça, j'étais très contente en fait, mais par contre, j'étais pas dans une situation heureuse. C'est-à-dire que ma mère s'en allait. Et je la voyais partir. Et je me disais, je perds ma mère, et je perds l'Allemagne, et je perds l'Allemagne. Voilà. Et je disais à Cécile, on fait cette correspondance, mais de fait, objectivement, je réponds quand je peux, parce qu'il y avait des moments où je ne pouvais pas, donc elle m'écrivait une lettre, et puis je répondais quand je pouvais, il y avait des intervalles d'un mois ou plus.
Voilà. Mais c'était pas important.
Non, c'était tout à fait ouvert, on n'avait pas de.
Tu sais que normalement, comme tu viens de le dire, je n'avais pas l'Algérie, je n'avais pas l'Allemagne, je n'avais pas non plus la France. voilà, toi, oui, tu parlais de gens tués plutôt du, pas d'une langue, mais peut-être de langue, de trois langues avec l'anglais, mais peut-être pas la vie, quoi. Tu es plutôt d'une langue,
oui, tu as des messages.
Toi, tu es plutôt, tu dis à un moment donné, au moins deux langues, et on voit le nombre de temps. Et avec l'anglais, ça te fait, on va trouver. Et c'est toujours aussi par le biais des écrivains. Par exemple, l'anglais, c'est Shakespeare et Joyce. L'allemand, c'est Clarice B, Kafka, etc. Le français, c'est Stendhal, Montaigne.
C'est ça ton pays. Oui, mais il y a longtemps que j'ai vu ça, parce que dans ma petite enfance, j'étais obligée de penser à la scène, de la nationalité, du nationalisme. Je l'ai souvent dit, je suis dans le cas de ces gens. Qui, alors, ça c'était donc en France, donc en Algérie française qui était supposée être la France alors que ce n'était pas la France, on a exercé au début des années 40 les lois anti-juives. La ville où je vivais, Oran, était très pétainiste. Et moi j'ai vécu l'événement de la perte de la nationalité française. Donc j'avais à peine le temps de me rendre compte. J'étais née dans soi-disant un monde appelé France, qu'on a été mis à la porte, au pied. Et donc là, on ne peut pas croire à une nationalité ou à une citoyenneté. Bon, on nous l'enlève comme ça, et d'ailleurs, on ne nous l'a pas rendu. Il faut le aussi, hein, parce qu'on ne l'aura jamais finalement. À aucun moment, on n'a rendu la nationalité française. Ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, qui est différent, bien sûr, de ce qui s'est passé en France, c'est le débarquement des Algériens. Quand les Alliés sont arrivés, à ce moment-là, les Juifs qui avaient été foutus dehors de partout, mon père qui était médecin n'exerçait pas, tout était fermé, je ne suis pas allée à l'école, etc. Ils n'ont pas repris la nationalité française tout de suite, je crois que ça a pris un an. Et c'était, de toute façon, on ne leur a pas rendu. C'est l'intervention américaine qui a vraiment libéré l'Algérie, ça je l'ai vécu. Et voilà. Alors après, on ne peut pas. Transformer la réalité, les faits. Si en Turc, quand on retrouve un passeport français qui d'ailleurs met tout le temps contesté, ce qui m'énerve d'ailleurs, quand je fais des papiers, alors on me dit tout le temps que je ne suis pas française. On me dit je suis d'accord, mais enfin, vous avez des papiers, oui. Bon. Mais chaque fois, ça recommence. Ma mère me disait toujours, surtout, parce que ma mère est née à Strasbourg, c'est pour ça que je suis attachée profondément à cette ville, c'était Strasbourg allemand. Et elle m'a toujours dit, ne dis pas que Strasbourg était allemand. C'est la seule chance de survivre. C'était vrai. C'est encore un truc de l'histoire. Donc je dis, ma mère est à Strasbourg, on croit que c'est la France. Mon père est contesté en permanence. Il est né en Algérie, on me dit, mais il était français. Alors j'en ai vraiment ma claque. Voilà. Ma famille était française avant les décrets tribus en 1877. Et avant la plupart des Français. Bon, mais chaque fois, il faut remonter. Faire le tour, faire le singe et essayer de prouver qu'on est français, etc. C'est très pertinent.
Et quelle est-il la langue arabe?
La langue arabe, c'est une langue que j'ai aimée et malheureusement, alors là, j'ai pas pu la cultiver parce que quand j'avais 10 ans, mon père qui était un grand pédagogue et qui me donnait toujours comme ça, qui ouvrait toutes les portes pour moi, il m'a donné un maître d'arabe et un maître de hébreu. Et j'ai appris ensemble. L'arabe et l'hébreu pendant quelques mois, et mon père est mort. Et voilà, à ce moment-là, les maîtres ont disparu. Mais j'ai gardé comme ça une trace de la république d'arabe, quelques mots que je n'ai pas oubliés, et je me sens proche de cette langue. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai souvent pensé, c'est une bizarrerie, mais c'est comme ça, qu'il y a des sons en allemand qui sont comme des sons arabes et vice-versa.
Si tu te rapport à l'allemand, c'est le signe de l'enfance aussi.
Non, enfin, oui et non, je dirais. C'est, comment dire, dans mon enfance, la langue que j'ai beaucoup entendue, enfin, pas le français, c'est le yiddish que parlait ma grand-mère, mon père, et donc qui est à 80% une langue germanique. J'ai appris l'allemand pour comprendre le yiddish. Et parce qu'à l'époque, c'était absolument pas une langue qui se transmettait évidemment. C'était une langue qu'il fallait surtout pas parler, c'était dans le secret. Et mon rapport à la langue allemande vient de ça, c'est-à-dire à la fois de cette ressemblance et de cette différence. C'est un peu comme des écluses, c'est-à-dire parfois, finalement, c'est un peu différent au départ. Parfois ça s'ouvre et parfois ça se referme. Une sorte de complexité, d'ambivalence par rapport à l'allemand. Et en plus, la façon dont on enseignait l'allemand à l'époque, j'ai appris ça au lycée dans les années 60, j'ai le souvenir d'une histoire, c'est mon seul souvenir des deux premières années d'allemand, que me racontait le professeur d'allemand, qui étaient deux Allemands sur les Champs-Élysées, qui veulent prendre une consommation et qui veulent surtout pas qu'on sache qu'ils sont Allemands. Donc ils parlent anglais et ils demandent two martinis. Et le garçon leur dit try, et la bête, ils disent no, two martinis. Et le garçon comprend encore une fois try, et à la fin, ils disent nine try. Mais en même temps, cette histoire, en fait, c'est complexe d'apprendre une langue dont les gens qui la parlent se cachent aussi, en étant tributaire de ce yiddish que j'entendais tout le temps, qui m'était familier, que je ne comprenais pas, que je comprends à travers l'allemand. Enfin voilà, c'est tout un réseau complexe de choses.
Et toi, tu dis aussi que par rapport à Hélène, peut-être, que ce que tu ne peux pas peut-être.